Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Radio Présence Figeac et Occitanie, nous avons le plaisir d'accueillir Tiené Simonin pour continuer avec la suite de l'histoire du Musette. Nous avons Armand aux commandes. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde.
Et moi-même Mathilde Lacaze. Aujourd'hui Marie-Odile Lacaze m'a laissé le micro pour continuer avec cette histoire du Musette qui nous tient complètement en suspense. Tiené, depuis Rennes, vous allez nous réjouir avec cette histoire. Ça va être le dernier épisode, si je comprends bien. Bonjour Tiené.
Oui, bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde. Ça va être le dénouement, c'est ça.
Le dénouement. Donc nous avons eu les origines du Musette, l'entre-deux-guerres des années 40 aux années 80. Et aujourd'hui, je suppose qu'on va arriver jusqu'à le Musette jusqu'à nos jours.
Oui, on va parler pas mal des années 90, parce que vraiment, les années 1990, c'est la décennie du renouveau du Musette et de la redécouverte. Alors, il y a les deux, renouveau et redécouverte.
Alors, précisons.
Oui, précisons. Bah non, mais renouveau, parce que on va composer de nouveau dans le style Musette ancien, en s'inspirant du Musette ancien, ou en opérant de nouveaux métissages, comme on va le voir dans un instant. Et puis redécouverte, parce qu'on va tout simplement revenir vers le répertoire et le style ancien qu'on avait un petit peu délaissé auparavant. Et on a d'ailleurs des prémices dans les années 1980, avec par exemple l'album « Trois temps pour bien faire » de Marcel Azola. Mais vraiment le disque qui marque un tournant dans l'histoire du Musette, c'est le CD Paris Musette. En 1990. C'est une initiative de Franck Bergerot et Didier Roussin. C'est un mélange de principes. On fait appel à plusieurs accordéonistes talentueux qui ont conservé un beau style et puis on soigne l'orchestration, l'accompagnement. On fait appel par exemple à Didier Duprat à la guitare qui était dans sa jeunesse accompagnateur de Tony Murena. Et puis voilà, on mélange donc des morceaux du répertoire ancien et des compositions dans le style plutôt swing musette. Et c'est un succès mondial.
Mondial.
Des exemplaires. Ah oui, mondial. Aux États-Unis, au Canada, en Asie, mais c'est pas 15 ou 20 exemplaires. C'est plus de 100 000. Plus de 100 000 exemplaires. Donc c'est vraiment un gros succès.
Et avec des étrangers, j'allais dire, qui se mettent d'ailleurs à l'accordéon et à jouer du musette en Asie.
Alors qu'ils découvrent pas, mais en tout cas qui sont vraiment sincèrement intéressés par cette musique-là, qui ont déjà une culture peut-être du musette ancien et qui retrouvent dans ce CD Paris Musette l'esprit du musette ancien. Alors justement, on va écouter la piste qui ouvre ce CD. C'est une composition de Gus Wieser qui s'appelle Douce Joie et c'est Armand Lassagne qui est à l'accordéon.
Thank you.
Douce Joie, interprétée par Armand Lassagne. Quelle virtuosité, n'est-ce pas, Tiené ?
Oui, c'est magnifique. Très belle valse et très belle interprétation. Voilà, donc le CD Paris Musette. Alors, on reste dans cette décennie des années 90, pour parler un petit peu de Richard Galliano, quand même. Alors, lui, qui illustre vraiment parfaitement ce renouveau dont je parlais tout à l'heure du Musette. 1991, c'est la sortie de l'album New Musette. Voilà, qui propose un métissage, en fait, de Musette avec du jazz contemporain. Alors, c'est le joueur de bandoneon Astor Piazzolla qui avait suggéré ça à Galliano, parce que Astor Piazzolla, donc, c'est un Argentin, et il avait fait le New Tango, mélange de tango et de jazz. Et puis, il avait vu Galliano, il lui avait dit, mais toi, tu devrais faire le New Musette, tu devrais mélanger le Musette avec le jazz. Et Galliano s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a fait en 91 cet album New Musette qui a très bien marché. 2 ans plus tard, en 93, il sort l'album Viaggio qui est dans la même veine. Et ce qu'il faut dire, c'est que Galliano a eu un rôle considérable dans l'image de l'accordéon véhiculé auprès du public. Il y a vraiment un avant et un après Galliano. Donc, je vous propose d'écouter un extrait de son album Viaggio, donc 1993. C'est Waltz for Nikki, de et par Richard Galliano, donc.
Présence à Figeac 97.7.
Waltz for Nikki, interprété par Richard Galliano et composé par Richard Galliano. Alors là, on voit qu'avec Piazzolla, Galliano, le Musette prend un aspect mondial, en fait. C'est la mondialisation du Musette, en quelque sorte.
Oui, je ne sais pas si la mondialisation date de là, mais en tout cas, il y a une reconnaissance, c'est sûr, à l'étranger, de ce métissage-là, ouais, du jazz avec le Musette. Ça plaît à beaucoup de gens, oui.
Et c'est vrai que la France, enfin moi je voyage beaucoup dans le monde, la France c'est quand même l'accordéon, et quand je recevais des gens à Paris, qu'ils soient allemands, qu'ils soient mexicains, qu'ils soient canadiens, ils s'attendaient à voir un accordéoniste Musette à chaque coin de rue, puisque c'est ça qui représente la France, quoi, c'est-à-dire la Tour Eiffel, le fromage et puis l'accordéon.
Oui, l'accordéon Musette, c'est vrai. Et oui, oui, il n'y a pas d'endroit à Paris pour les étrangers où écouter du Musette, ça n'existe pas. Alors après, on pourra en parler longtemps du rapport de la France avec des Français avec cette musique-là. Il y a un peu de honte parfois, j'ai l'impression. Pas mal de méconnaissances aussi, mais bon, j'espère que les choses changeront un jour.
Il y a des places à prendre, en tout cas. Des places d'accordéoniste Musette à prendre dans chaque coin de Paris et d'autres villes de France. Alors, la suite de cette histoire du Musette, après
Galliano. Oui, on a parlé du renouveau. Maintenant, peut-être plutôt parler de la redécouverte du répertoire ancien. Donc, à partir des années 90, il y a plusieurs groupes, en fait, qui remettent à l'honneur le Musette acoustique des origines, on va dire, en faisant cohabiter des réinterprétations du répertoire ancien et des compositions dans l'esprit de l'entre-deux-guerres. Alors, je pense à Denis Chaud Jazz Musette, par exemple, ou Les Primitifs du Futur. Ouais, avec Dominique Kravic à la guitare et Daniel Collin à l'accordéon. Alors, je vous propose justement d'écouter Les Primitifs du Futur avec une composition de Médard Ferrero, dont on avait parlé dans la deuxième émission. C'est une mazurka à variation qui s'appelle Dalinette. Incroyable ce morceau. Alors là, je suis très surprise. Je n'avais pas entendu de telle orchestration dans le Musette jusqu'à présent. Il y a des instruments qui sont assez particuliers, là, Tiennet. Oui, il y a la scie musicale, le xylophone. J'en avais un petit peu parlé dans la deuxième émission, mais alors pas forcément pendant les bals Musette, mais au moment des enregistrements, on pouvait avoir voilà, ce genre d'instrumentarium un peu particulier, la flûte à coulisses, le xylophone, etc. pour donner un côté un peu pittoresque, un peu humoristique à cette musique-là.
Voire exotique,
Voire exotique, absolument. Bah oui, oui, l'exotisme, dans les années 20-30, les Français en étaient friands, absolument. Alors, j'aimerais quand même revenir à la thématique de l'émission, la musique folk et traditionnelle, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans les années 70-80, le milieu folk avait horreur de l'accordéon et du musette. C'est vraiment ce que disait Jacques Brel, j'ai horreur des flonflons de la valse musette et de l'accordéon. Le milieu folk dans les années 70-80 déteste ça, a vraiment horreur de ça. Et il y a quelqu'un qui va jouer un rôle immense pour redorer un petit peu le blason de cette musique-là dans ce milieu folk trad, c'est Marc Perron. Marc Perron, donc lui, il va faire connaître le musette auprès du public folk en l'interprétant au diatonique, à l'accordéon diatonique. Alors il y a un CD que moi j'aime beaucoup, qui est sorti en 93, qui s'appelle Cinéma Mémoire, où Marc Perron met à l'honneur des musiques plutôt musettes, mais qui proviennent de films français. Et je vous propose d'écouter un grand tube de Carrara, Mon amant de Saint-Jean, donc par Marc Perron.
Ne connaît pas Mon amant de Saint-Jean, je crois que c'est vraiment un tube que tout le monde le connaît par cœur. Il me semble que jeunes et vieux, tout le monde connaît ce tube. Et est-ce que ce serait grâce à Marc Perron qui aurait remis ce style de musique au goût du jour, Tiennet ?
En partie, mais c'est vrai que c'est vraiment un tube depuis sa création en 1942. Ça fait partie des morceaux qu'on entend souvent quand on prend le métro, les accordéonistes qui font la manche. Use et abuse de ce morceau. Ça a été repris par Patrick Bruel aussi, je me souviens, il y a quelques années. Ouais, il avait fait un disque sur les vieilles chansons comme ça. Donc oui, non, mais c'est une mélodie magnifique, et puis interprétée comme ça, c'est un régal.
Oui, effectivement, superbe. Et Marc Perron, je crois qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Il continue à jouer.
Oui.
Et je sais qu'il a un public très fidèle.
Il est toujours là. Il est toujours là.
Et je me souviens avoir vu un concert de lui il y a plus de 10 ans, et il a quelques difficultés de santé, et malgré tout, il a un public extrêmement fidèle qui vient à ses concerts, qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de liens, il me semble.
Oui, tout à fait. Alors, pour rester un petit peu dans ce milieu folk et trad, on va aller plus vers la musique d'Auvergne. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les années 70-80, le milieu folk, à cette époque-là, fait beaucoup de collectage. Donc, on va dans les campagnes. Alors, c'est plutôt des jeunes citadins, des étudiants qui vont dans les campagnes voir des vieux musiciens pour collecter donc du répertoire. Mais il y a une sorte de biais qui s'opère à ce moment-là, parce que je disais tout à l'heure, il y a une réaction presque épidermique par rapport aux musettes. Les jeunes qui vont collecter ne veulent pas entendre parler du musette auprès des vieux musiciens. Ils veulent du répertoire traditionnel. Alors les musiciens jouent du répertoire traditionnel, mais en fait, le répertoire musette, il était aussi joué et apprécié par cette génération-là. L'un de ceux qui s'y intéressait le plus à cette époque-là, dans les années 70-80, c'est Michel Esbelin, joueur de cabrette qui habitait Paris et qui a été collecté notamment un monsieur qui s'appelait Robert Arriba. Peut-être plus que les autres, Michel n'a pas balayé d'un revers de main, en fait, quand Robert Arriba lui a parlé des bals musettes et de l'importance de ce répertoire-là pour la cabrette, dans les bals auvergnats. Et donc, il a noté plusieurs mélodies du répertoire musette qui étaient jouées par les auvergnats dans leurs bals, à la cabrette. Et tout ça a abouti en 2002 à un groupe qui s'appelait les Costauds de la Lune, qui proposait une musique d'Auvergne, mais dans toute sa diversité. Donc de la musique traditionnelle, du musette, de la chansonnette de café-concert, du néo-folklore auvergnat. Et à mon avis, le disque sort en 2002, c'est un CD qui a marqué les esprits. Alors justement, on va écouter la valse Les Costauds de la Lune, une chanson du début des années 20, en fait, et qui a donné son nom au groupe, Les Costauds de la Lune. Donc Michel Esbelin cabrette, Didier Pauvert accordéon chromatique et Patrick Désonnet au banjo.
Le long du trottoir, dans la nuit brune, frôlant le passant, le regard aguichant la manchette, fortune. Son homme un costaud, foutu s'il le faut, d'une thune. Jouer du couteau, c'est le coup des costauds de la nuit.
C'est sur ces dernières notes des Costauds de la Lune qui réunissent un petit peu donc toutes les influences du musette, si je ne me trompe pas, que nous allons clôturer l'histoire du musette qui nous a été racontée par Tiené Simonin. Alors Tiené Simonin, est-ce que vous voulez conclure ces quatre belles émissions que nous avons fait avec vous. Je vous remercie déjà de la part de tous les auditeurs. C'était extrêmement intéressant et enrichissant.
C'est un plaisir pour moi.
Et c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui s'y connaît aussi bien et qui peut raconter une histoire d'une musique qui, aujourd'hui, vit encore.
Oui, après, ce que je veux dire, voilà, c'est que l'histoire que j'ai racontée, elle est forcément un petit peu subjective. C'est normal. D'avoir des préférences. J'ai
tout à
les
fait.
Miennes et je pense que les auditeurs auront compris lesquelles. Mais ce qui est important, c'est de se respecter. Et puis moi, je plaide vraiment pour la diversité. Encore une fois, l'histoire du musette. Le musette, c'est un genre composite. Il y a plusieurs sous-genres à l'intérieur. Ce serait dommage de se cantonner juste à une partie de ce genre. Le musette, il est intéressant dans toute sa diversité.
Merci beaucoup. Merci à Armand, à la technique.
Mais de rien.
Et j'espère que nous vous retrouverons pour d'autres émissions, Tiennet, parce que je sais que vous avez encore plein de connaissances. Et j'espère que nous allons trouver tous les deux d'autres sujets sur lesquels vous pourriez nous faire plaisir. À bientôt.
Avec plaisir, Mathilde. À bientôt.